Le 28 novembre 1957, le Parlement belge vote enfin un projet de loi organisant la gendarmerie. Le texte sera publié quelques jours plus tard au Moniteur belge, donc dans le journal officiel du Royaume de Belgique. Et le moment est important, parce que par ce vote, le Parlement, en fait, accorde la situation avec la Constitution belge de 1831, qui, en son article 120, prévoyait le vote d'une loi organique sur la gendarmerie. Alors, jusqu'à présent, enfin, jusqu'en 1957, cette loi n'avait jamais été votée pour diverses raisons, pour cause de désaccords politiques, pour cause de facilité de gestion de la gendarmerie par voie d'arrêté par les autorités compétentes et pour toute une série de raisons sur lesquelles nous allons revenir. Ce qui est important avec ce texte, c'est que le texte de loi, en fait, reconnaît la primauté de la gendarmerie au sein de l'appareil policier belge. Et donc, la loi organique de 1957 ouvre une nouvelle période de développement de l'institution et confirme de ce fait l'existence au sein du Royaume de Belgique d'une police d'ampleur nationale, d'identité militaire, en charge de missions de police administrative, de missions de police judiciaire et de missions prévotales et militaires. La loi de 1957 est aussi importante parce qu'en fait, elle va marquer durablement l'appareil policier belge, puisqu'elle va, en fait, globalement organiser la gendarmerie jusqu'à la fin du XXe siècle, notamment, globalement, pardon, jusqu'à la réforme de police suivant le scandale de l'affaire Dutroux à la fin des années 1990. Et donc, cette loi a permis à la gendarmerie de se développer de se développer jusqu'à ce qu'elle devienne, comme les critiques vont le dire, hein, ici c'est issu d'un journal hollandais, un État dans l'État. Pour comprendre cette situation, pour comprendre ce que représente cette loi, il faut, je pense, remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. Tout le processus qui a mené à cette confirmation de la gendarmerie doit se comprendre sur près de 40 ans, depuis 1918, en passant par l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale et la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est de cet intervalle chronologique, de cette période de 40 années, qu'on va discuter aujourd'hui pour essayer de réfléchir à d'éventuelles spécificités gendarmiques belges, pour essayer de comprendre ce qu'il en est en Belgique en termes de gendarmerie. Alors, notre exposé sera divisé en trois périodes. Alors, je lis ici la temporalité et la chronologie sociopolitique de la Belgique et globalement de l'Europe, au rythme spécifique d'évolution institutionnelle de la gendarmerie. Et l'idée est évidemment de voir dans quelle mesure ces rythmes s'accordent, où sont les éléments de continuité, où sont les éléments de rupture. Alors, la première période qu'il convient de prendre en compte, c'est donc la fin de la Première Guerre mondiale. En 1918, la situation belge est particulière, parce qu'en 1914, lors de l'invasion allemande, les gendarmes ont quitté le territoire national, suivant l'armée dont ils faisaient partie. Et donc en 18, les gendarmes doivent réinvestir le territoire national. Ils doivent retourner sur l'ensemble du territoire belge pour exercer à nouveau leur mission. Et ce retour et la préparation de ce retour sur le territoire national est important à signaler parce qu'on y voit déjà des tensions identitaires sur la gendarmerie. L'état-major du corps va pousser pour un retour rapide des unités sur l'ensemble du territoire et surtout pour un retour rapide des unités sous ses ordres, mettant en avant la nécessité d'exercer des fonctions de police, de police judiciaire, de police de maintien de l'ordre. L'état-major de l'armée, quant à lui, juge utile de garder autant que possible les gendarmes sous son commandement pour remplir toute une série de tâches annexes. Et au final, notamment face à l'accélération des opérations militaires en 1918, c'est l'état-major du corps qui va prendre la main sur le dossier et qui va pouvoir mener le réinvestissement du territoire national à sa façon. Alors, le retour des gendarmes sur le territoire national, c'est un processus assez rapide. Vous le savez, la guerre se termine en novembre 1918 et on peut estimer que, globalement, entre la mi- et la fin décembre 18, les gendarmes ont repris leur cantonnement d'avant-guerre selon une structure d'avant-guerre. Donc il n'y a pas de changement organisationnel à ce moment, dans un premier temps. Le retour est rendu facile notamment parce que le corps dispose encore à l'époque de l'essentiel de ses moyens humains. Les gendarmes ont été déracinés pendant la guerre, mais ils sont encore là en nombre, ils sont là de manière globalement suffisante. Sur le moyen terme, cette situation qui, dans un premier abord, peut paraître positive, va se révéler être plus difficile à gérer. Alors, il y a des difficultés logistiques. Il y a eu des destructions pendant les combats. Il y a des difficultés aussi humaines. On se rend compte que les effectifs de 1914 sont insuffisants pour répondre aux nouvelles missions dont le corps est chargé, pour répondre à la situation particulière de l'ordre, d'augmentation du banditisme en Belgique à ce moment-là. Et surtout, la situation est changeante, enfin est difficile, parce que le système policier belge a profondément évolué du fait de la guerre. La gendarmerie est de facto, après-guerre, la principale force de police, la principale force de maintien de l'ordre, puisque notamment l'armée ne jouera plus de rôle dans le maintien de l'ordre après-guerre. Les gardes civiques ont été supprimées lors de l'invasion allemande. Il y a certes une police judiciaire qui va être créée en 1919, mais elle est dans un premier temps insuffisante pour réprimer la criminalité nouvelle. Premier moment. Deuxième moment, c'est le temps long de l'entre-deux-guerres, pourrait-on dire. Alors là, globalement, on peut décrire l'évolution de la gendarmerie comme étant marquée par un renforcement continu de ses moyens humains et matériels, par un processus de spécialisation, des unités particulières en charge de missions précises vont être créées, par un processus de modernisation, avec toute la difficulté à définir ce terme et voir ce qu'on met derrière, hein, mais on va voir notamment promouvoir une plus grande rapidité d'intervention, une motorisation du corps, des meilleurs moyens en termes de force de frappe, de puissance de feu, de moyens de communication, et aussi un renforcement durant l'entre-deux-guerres de l'autonomie et de la cohésion institutionnelle. Alors pour illustrer un peu ce phénomène, je pense que la problématique du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre dans l'entre-deux-guerres peut être intéressante. Durant l'entre-deux-guerres, les interventions des gendarmes en termes de maintien de l'ordre vont se multiplier. La situation sociale n'est pas évidente, il y a la crise économique des années 30, la situation politique belge a élargi après la Première Guerre mondiale, a libéralisé le droit de grève, a permis des regroupements beaucoup plus larges des ouvriers, etc. Et donc on va voir se multiplier les mouvements sociaux et en réaction les interventions des gendarmes. Et durant ces interventions, durant ces missions, on constate que les gendarmes sont au cœur d'un système relationnel entre les autorités administratives, judiciaires, politiques. Et c'est un système où ils vont pouvoir développer leur autonomie, développer leur point de vue et défendre leur point de vue particulier. Alors ce qui est très caractéristique, par exemple, c'est les relations qu'entretiennent les gendarmes avec les bourgmestres dans la province du Hainaut, donc c'est une province industrielle en Belgique, puisque après-guerre, certains de ceux-ci sont dorénavant socialistes. Et lors des interventions des gendarmes, se multiplient les conflits entre les gendarmes et les bourgmestres sur la manière de gérer l'ordre public, sur les frontières de l'intervention ou de la non-intervention des gendarmes face aux protestataires, aux contestataires. Dans ces interventions, la gendarmerie va gagner aussi son autonomie en n'hésitant pas à s'opposer, par exemple, à l'armée. Caractéristique, c'est la volonté du corps de s'émanciper de l'armée en termes de moyens de communication. Durant l'entre-deux-guerres, les gendarmes vont toujours prôner pour disposer d'un réseau radio indépendant du réseau radio militaire, hein, pour pouvoir communiquer avec les unités en cas de trouble. Et donc, on va voir une véritable guerre de tranchées se mettre en place entre l'arme du génie en charge des communications militaires et la gendarmerie, lesquelles se disputant les fréquences, les budgets, le type de matériel à utiliser. Et c'est un leitmotiv qui va être récurrent dans les années 20. Et puis après des grèves en 1932, la gendarmerie va revenir à la charge, signalant qu'il est nécessaire de disposer d'un réseau radio. Et donc on voit que le corps va pouvoir s'émanciper et s'affirmer. Et donc on peut dire que toutes ces missions de maintien de l'ordre, c'est pour la gendarmerie à la fois une opportunité et à la fois des contraintes. C'est une opportunité parce qu'ils vont pouvoir développer une expertise. une expertise en termes de maintien de l'ordre qui sera reconnue par tout le monde. Alors, cette expertise, dans les archives, on la retrouve à différents niveaux. Notamment, cet extrait où on voit que la gendarmerie est consultée dans les années 20 à Bruxelles lorsqu'il s'agit de réaménager les abords du Palais Royal, les abords du Parlement. Hein, donc il y a des grands travaux urbanistiques qui doivent être lancés. Et on va consulter les gendarmes pour savoir, en termes de maintien de l'ordre, ce qui est le plus intéressant à faire. Est-ce qu'il faut favoriser des grandes avenues pavées? Est-ce qu'il faut plutôt favoriser des jardins, etc.? Et on voit des officiers de gendarmerie se mettre à parler d'architecture, de matériaux de construction, d'esthétique, hein, comme dans l'extrait que je vous ai montré, pour défendre leur point de vue et défendre la facilité de maintenir et de rétablir l'ordre en cas de difficulté. Autre exemple, c'est la multiplication durant les années 20-30 d'instructions sur le maintien de l'ordre, où on voit que l'expertise du corps va vraiment grandir, s'affirmer. Donc ce sont tous des extraits destinés ici aux unités où on rappelle toutes les techniques, tous les moyens matériels disponibles, toutes les manœuvres à utiliser en cas de troubles de l'ordre public. Troisième champ d'illustration de cette expertise, c'est toutes les discussions internes à la hiérarchie sur le maintien et le rétablissement de l'ordre. Ainsi, dans les années 30, on a des officiers qui vont se plaindre des moyens matériels disponibles, signalant que en fait, ils sont équipés de manière très militaire. Hein, donc, l'essentiel de l'équipement, c'est des fusils, des armes automatiques, des autoblindés, et que c'est donc peut-être pas le plus adéquat pour rétablir l'ordre. Des officiers vont proposer que les gendarmes soient systématiquement équipés de matraques, de gaz lacrymogènes, et qu'ils puissent mettre en œuvre une riposte graduée face aux violences pour ne pas devoir tout de suite utiliser soit le feu, soit des coups de crosse qui se révèlent être particulièrement violents pour les protestataires. Et donc, cette idée part du terrain d'un officier fort de son expérience, remonte à l'état-major et va circuler au sein de l'ensemble des unités. Et on va voir se mettre en place un débat, alors certes en partie cadenassé, entre les officiers, où vont s'affirmer des points de vue plus traditionnalistes et des points de vue plus modernistes sur l'utilité des moyens dont il faut disposer. Alors, certains vont signaler que c'est complètement inadéquat parce que, par définition, lorsque les gendarmes interviennent, c'est parce que on a besoin d'affirmer qu'il faut que force reste à la loi, il faut affirmer la puissance de l'État et que donc il est inutile de partir dans une logique de riposte graduée. Au contraire, certains, parfois plus jeunes, pas nécessairement, ça dépend aussi de leur lieu d'affectation, vont signaler l'utilité de réfléchir à ces nouvelles méthodes. Alors, au final, sur ce dossier-là, notamment étant donné une fin de non-recevoir de l'inspecteur général de la gendarmerie, qui est donc l'officier en charge de garantir sa militarité, il n'y aura pas d'évolution majeure avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on le voit bien, notamment parce qu'il dispose sur le terrain d'une très grande latitude d'action. Le maintien de l'ordre, c'est vraiment une période où les gendarmes peuvent s'affirmer en tant qu'institution à la tête de l'appareil policier. Le troisième moment, ou bien deuxième moment et demi à considérer, va donc être la Seconde Guerre mondiale et les troubles qui en découlent. Alors, si on fait un point de situation en 1940, à l'aube de l'invasion, que peut-on dire? Que la gendarmerie est d'abord largement plus puissante qu'en 1918. Hein. Ses effectifs ont doublé durant l'entre-deux-guerres, globalement, alors de manière un peu parfois chaotique, notamment pour des raisons économiques. Hein. Donc le corps aimerait bien disposer plus de gendarmes, mais les finances publiques étant ce qu'elles sont, c'est pas évident. C'est un corps largement plus puissant qu'en 1918, largement plus spécialisé, on l'a dit. Et donc c'est un corps qu'on peut définir comme étant omniprésent dans la vie publique belge et qui est à la fois craint, incontournable et respecté par les populations, par les autorités avec qui les gendarmes interagissent et par les protestataires ou par les abonnés à la protestation comme les milieux communistes notamment. En 40, la situation est très différente de 1914 puisque les gendarmes vont rester sur le territoire national. Il n'y a pas de repli avec l'armée. De toute manière, l'armée belge est battue. Et donc, les gendarmes vont être contraints de continuer à exercer des fonctions publiques en territoire occupé, de gérer cette nouvelle situation, de s'adapter au droit national et international de la guerre pour être policier en territoire occupé. Et donc les gendarmes vont être au cœur d'une multitude d'enjeux sur lesquels je ne vais pas revenir de manière très longue parce que j'en ai déjà parlé autre part, hein, d'enjeux politiques, d'enjeux judiciaires, d'enjeux sociaux. Et ils vont aussi redécouvrir leurs relations particulières à l'État et le caractère éminemment politique de leur présence sur le territoire national, de leur service de l'autorité, de la chose publique. En termes institutionnels, l'occupation a ceci de particulier qu'on va voir le corps se transformer profondément. Alors, il est intéressant de voir que certaines des réformes qui vont être mises en œuvre, renforcement matériel, meilleure spécialisation, meilleure formation des personnels, sont mises en œuvre durant l'occupation, mais sont issues de certaines réflexions, de certains débats d'avant-guerre. Et donc, vouloir à tout prix créer des ruptures entre l'occupation et l'avant-guerre, c'est artificiel en termes de compréhension de l'institution gendarmerie. Néanmoins, c'est évident que s'il y a des logiques professionnelles dans les réformes mises en œuvre, il y a aussi des logiques éminemment politiques à la demande des forces d'occupation allemandes et aussi sous l'impulsion des autorités administratives belges présentes qui, au fur et à mesure de l'occupation, vont se politiser, vont être plus proches de l'ordre nouveau. Ce qui est important à signaler en termes de maintien de l'ordre, pour un peu continuer avec l'avant-guerre, c'est l'évolution du maintien de l'ordre durant la guerre. D'une part, la violence y est beaucoup plus présente et le corps n'est pas toujours à son avantage. Il est largement amoindri, il est largement exposé. L'équilibre des forces est défavorable au corps. C'est évidemment la transformation du maintien de l'ordre. On ne fait plus face à de grosses manifestations, à des mouvements sociaux, mais on fait face à toute une nouvelle criminalité, une nouvelle violence, à des formes de résistance, à des actions clandestines où l'enjeu politique et l'enjeu national est toujours présent. Néanmoins, face à ces évolutions, le commandant de la gendarmerie, nommé en 1943, qui est un partisan de la collaboration, va promouvoir l'idée d'un ordre unique en Belgique, disant qu'il ne revient pas aux gendarmes de discuter les conditions du désordre, qu'ils doivent au contraire faire preuve de fermeté et qu'ils doivent notamment faire un usage accru de leurs armes, je cite, dans une optique où chaque coup doit porter. Conclusion, à la libération, le corps est largement affaibli, est largement amoindri. Pourtant, ça va être l'atout principal du gouvernement dans son rétablissement étatique. Et donc, le corps va bénéficier d'un traitement de faveur, pourrait-on dire, alors en termes épuratoires, hein, traitement de faveur en termes de priorité des dossiers, mais aussi en termes de matériel et de réorganisation. Dans un premier temps, c'est l'urgence, la réorganisation. Le corps doit savoir frapper, les gendarmes doivent savoir frapper fort, frapper vite, frapper bien, doivent savoir imposer la loi, doivent savoir imposer l'État central. Et donc, dans le temps de l'urgence, la logique qui prévaut à la réorganisation, c'est celle de la coercition et de la force de frappe. Sur le moyen terme, à partir de 1945, la situation va se normaliser, l'État va s'affermir, et donc on va voir la situation et l'organisation et les moyens de la gendarmerie se normaliser ou bien reprendre une logique plus graduée. Hein, ben, la question des gaz lacrymogènes dont je parlais avant-guerre, eh ben, en 1945, au printemps, des gaz vont être livrés aux gendarmes en signalant que ça permet de gérer des situations de manière efficace. Ce qui marque la fin, une première fin, on pourrait dire, de la guerre, c'est en 1945, au printemps 1945, l'adoption de deux arrêtés de réorganisation qui confirment le renforcement du corps, qui confirme sa place première dans l'appareil policier et qui le dote de moyens accrus, d'unités notamment spécialisées en termes de police judiciaire, qui le dote d'un niveau hiérarchique de la région qui regroupe toutes les unités, tant mobiles, tant spécialisées, tant territoriales présentes sur une sur un espace géographique donné, pour permettre de gérer au mieux la situation. Et donc c'est une preuve d'autonomie plus grande de la gendarmerie. Alors ces deux arrêtés de 1945 préfigure la loi de 1957. Parce que si on va en avant et qu'on arrive au début des années 50, ou après la question royale et notamment des interventions extrêmement violentes de la gendarmerie durant des manifestations relatives à l'opportunité ou non du retour du roi Léopold III sur le territoire national, on va discuter, on va enfin remettre sur le tapis la nécessité de voter cette loi qui mettra encore quelques années à être adoptée. Et si on regarde en fait les options prises en 45, mais aussi les options prises depuis 1918, on constate qu'en fait la loi de 57, dans les faits, ne fait confirmer tout un ensemble de processus qui ont été pris au fil de l'eau. Alors pour terminer, un petit mot encore sur l'importance de cette loi. Donc, elle confirme en fait la gendarmerie. Je vais tout de suite aller à la conclusion. Elle confirme la gendarmerie en tant que première force parmi l'ensemble des forces de police présentes en Belgique. Elle confirme et elle est l'aboutissement d'un processus où on a bien pu revoir les liens entre gendarmerie, État et société et tous les enjeux politiques des fonctions de police. Et surtout, cette loi, je pense, est intéressante à prendre en compte parce que elle permet à la gendarmerie de grandir durant le second XXe siècle, comme j'en ai déjà parlé d'une part. Mais surtout, elle va bloquer, peut-on dire aussi, l'évolution des autres forces de police présentes en Belgique, la police judiciaire ou les polices communales, qui, étant donné la primauté donnée à la gendarmerie, vont, si je dis vivoter, c'est méchant, mais ne vont pas bénéficier des mêmes champs d'intérêt et des mêmes priorités que la gendarmerie. Je vous remercie.